Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion, deux styles. Il s'est bien fait attendre, Philippe Auguste. Son père, Louis VII, avec Aliénor d'Aquitaine, n'avait eu que des filles. Avec sa deuxième épouse aussi. Il a fallu attendre le deuxième enfant de sa troisième femme pour que naisse enfin un garçon. Et quel garçon ! Sous le nom de Philippe II, que son biographe transformera plus tard en Philippe Auguste. Philippe II va régner 43 ans, remporter des victoires déterminantes, participer à des croisades, celle par exemple où il doit se battre aux côtés du fils d'Aliénor d'Aquitaine et d'Henri II Plantagenet, Richard Cœur de Lion. La troisième croisade, 1189-1192, est celle de la contre-offensive musulmane, avec Saladin. Dans un premier temps, c'est un désastre pour Guy de Lusignan, le Français devenu roi de Jérusalem. Ayant lancé toutes ses troupes vers Tibériade, il est encerclé et fait prisonnier avec tous ses combattants. Le 2 octobre 1187, Jérusalem est reprise par Saladin. La nouvelle se répand en Europe, une nouvelle armée de croisés est levée, conduite par Philippe Auguste, Richard Cœur de Lion et l'empereur germanique Frédéric III, dit Barberousse. Philippe Auguste, en voulez-vous un portrait ? Le voici. Selon un chanoine de Saint-Martin de Tours, le roi Philippe II est un jeune homme beau et bien bâti, il est chauve. Son visage respire la joie de vivre. Il aime le vin, la bonne chère, et il est porté sur les femmes. Généreux avec ses amis, il convoite les biens de ses adversaires. Il est expert dans l'art de l'intrigue, il se montre dompteur des superbes, défenseur de l'Église et nourrisseur des pauvres. Cette description flatteuse est tempérée par celle qu'en fait un autre témoin de l'époque, assurant que Philippe II est plutôt intolérant et emporté, qu'il s'empresse surtout de satisfaire ses convoitises. C'est donc cet homme à la fois généreux et coléreux qui s'embarque pour aller secourir la troisième croisade en difficulté.
La mort de l'empereur germanique. L'empereur germanique Frédéric Barberousse s'est joint à la troisième croisade. À la tête de son armée qui doit rejoindre celle de Philippe et Richard, il gagne le sud de l'Asie mineure, la Turquie, et fait halte en Cilicie. Le 10 juin 1190, par une chaleur torride, il décide de se baigner dans un torrent glacé et s'y noie. Son armée désemparée se disperse. Il ne reste donc que Richard et Philippe qui ont choisi de se rendre en Terre Sainte par la mer.
L'entente n'est pas bonne entre les deux rois. Aussitôt qu'ils se rencontrent, ils se querellent violemment. Pourquoi ? Parce que 2 ans plus tôt, Philippe Auguste avait apporté son soutien à Richard Cœur de Lion dans sa lutte contre son père, Henri II Plantagenet. Mais immédiatement après avoir été couronné roi d'Angleterre, Richard s'était retourné contre la France. Aussi, pour éviter sans doute d'en venir aux mains, ce qui pour deux rois fait désordre, il décide de faire bateau à part. Philippe Auguste embarque à Gênes, Richard Cœur de Lion à Marseille. Il se retrouve pour se quereller de plus belle en Sicile. De Sicile, Philippe part directement pour la Terre Sainte, tandis que Richard fait une halte à Chypre, dont il s'empare en mars 1191, pour créer une base arrière de ravitaillement. Les voici à Saint-Jean d'Acre. Les choses ne s'arrangent pas. Richard arrive en triomphateur, il vient de remporter une belle victoire en mettant sous son aile Chypre. Et quelle prestance, quelle jovialité, quelle audace! Ce n'est pas pour rien qu'on le surnomme Cœur de Lion. Il a toujours été loué, admiré, fêté. Mais là, c'en est trop pour Philippe Auguste. Ce Richard les gros bras, il ne le supporte plus. Si personne ne le retient, il va faire un malheur. Philippe se domine, pas pour longtemps. La ville d'Acre résiste. Philippe et Richard s'opposent violemment, se calment, recommencent leur querelle et cela dure 3 mois, jusqu'au 13 juillet 1191 où la ville tombe enfin aux mains des croisés. Mais qui est le vainqueur dans l'esprit de tous ? C'est Richard. Et qui passe pour le poltron de service, celui qui n'a que mollement participé aux assauts ? C'est Philippe. Bien. Puisque c'est comme ça, il s'en va, Philippe. Et pour quelle raison? Parce qu'il a été prévenu qu'un de ses fils est très malade. Il souffre de la suette, qui est une forme de fièvre typhoïde. En réalité, Philippe a d'autres idées derrière la tête. Il arrive à Paris le 27 décembre. Le roi Philippe Auguste rapporte une triste nouvelle dans son royaume. Philippe d'Alsace, le comte de Flandre, est mort sous les remparts de Saint-Jean d'Acre le 1er juillet. Triste nouvelle, certes, mais qui finalement arrange ses affaires et le détermine dans une politique qu'il ne va cesser de pratiquer. En effet, il va récupérer au plus vite, à son profit, les terres de Philippe d'Alsace, l'héritage flamand. De plus, de nombreux ducs, comtes et princes étant morts en Terre Sainte, il va profiter de cette vacance des responsables souvent turbulents ou menaçants pour asseoir son autorité et commencer une centralisation qui ne cessera plus. Richard en fait trop. Richard en a trop fait. Lors du siège de Saint-Jean d'Acre, il n'a pas supporté que Léopold, le duc d'Autriche, tente de lui ravir la vedette, en se vantant d'exploits plus imaginaires que réels. Richard, en colère, s'est même saisi de la bannière du duc et l'a jetée dans le fossé. Humiliation suprême pour Léopold, qui va attendre son heure pour se venger. Ce qui arrive le 20 décembre 1192, lors du retour de Richard, qui met le pied sur les terres de Léopold pour rentrer en Angleterre. Immédiatement, le duc le kidnappe et le fait emprisonner, d'abord dans un cul de Bassos, comme un vulgaire bandit, puis il le fait transférer sur les terres de l'empereur Henri VI, qui installe le prisonnier dans une haute tour. Philippe Auguste s'en frotte les mains. Il s'empresse de conquérir la Normandie, propriété de Richard. De plus, il conseille à Henri VI, fils de l'empereur germanique Frédéric Barberousse, qui s'est noyé en Turquie, de garder son prisonnier indéfiniment. Mais Henri VI a déjà fixé une rançon énorme pour qui pourrait la payer et obtenir la libération de Richard. Et qui donc va réussir à rassembler cette rançon? Aliénor, la mère aimante et passionnée. Oui, Aliénor encore là, qui emporte elle-même les 100 000 marques d'argent à Mayence. Et le 2 février 1194, Richard sort de sa prison.
Bailli et sénéchaux. Philippe Auguste est un organisateur exceptionnel. Il décide de s'adjoindre des hommes de grande qualité dont la rigueur dans la gestion et dans l'application de ses décisions sera irréprochable. Ces hommes qu'il envoie à travers le royaume sont appelés des baillis, de l'ancien français baillir, administrer. Dans le midi de la France et dans l'ouest, le bailli est appelé un sénéchal. Le bailli est à la tête d'un bailliage, le sénéchal d'une sénéchaussée. Ce sont les ancêtres des préfets de la République. Mieux administré, le royaume s'enrichit. Cela permet notamment à Philippe d'agrandir et d'embellir Paris, dont il fait la capitale de son royaume. Il fait paver certaines rues, bâtir les halles, aménager le port, construire une enceinte et édifier la forteresse du Louvre, dont les fondations sont visibles au sous-sol du musée.
Aussitôt sa libération, Richard Cœur de Lion s'empresse de reprendre les armes pour récupérer la Normandie. Pendant 5 ans, Philippe et Richard vont s'affronter régulièrement. Jusqu'à ce 6 avril 1199, au matin, devant Chalut, Haute-Vienne, Richard inspecte ses lignes, sans armure. Un arbalétrier, Bertrand de Gourdon, lui décoche une flèche qui l'atteint à l'épaule. La blessure ne semble pas importante, mais le médecin maladroit qui vient le soigner casse la flèche avant de l'extraire. Il doit inciser largement pour retirer le carreau. Le carreau est le fer de la flèche en forme de losange à 4 pans. La blessure est colmatée avec du gras de lard. Quelques jours plus tard, la gangrène se déclare. Richard fait appeler sa mère, Aliénor d'Aquitaine, qui accourt de l'abbaye de Fontevraud. C'est elle qui lui ferme les yeux, le cœur brisé. Elle a 80 ans. Au terme de la troisième croisade, en 1192, Saladin demeure à Jérusalem et les croisés, en accord avec lui, contrôlent la côte entre Saint-Jean d'Acre et Jaffa. De plus, ils sont autorisés à aller se recueillir sur le tombeau du Christ dans la ville sainte. En 1198 est lancée la quatrième croisade, dont l'objectif est l'Égypte, siège du pouvoir musulman. Faute d'argent, elle ne peut partir qu'en 1201, gagne Venise pour laquelle elle reprend la ville dalmate de Zara aux mains des Hongrois. Cette victoire permet aux croisés d'être convoyés vers Constantinople, où ils s'immiscent dans une vendetta de succession au point de mettre le sac à la ville et de s'en emparer le 15 avril 1204. Le comte Baudouin de Flandre, qui participait à cette croisade, est sacré empereur latin de Constantinople. Les croisés conquièrent ensuite une grande partie de la Grèce méridionale.